Vous venez de publier un livre sur le combat du docteur Mukwege. Quel est l'objet de ce livre?
Mais c'est de faire mieux connaître un homme qu'on connaît comme gynécologue, comme acteur engagé à Bukavu. Et c'est un peu montrer comment sa trajectoire personnelle finalement rejoint toute la souffrance de la région, parce qu'il a tout connu. Il a connu l'exode des réfugiés Hutus, il a connu les deux guerres, les rébellions. C'est à travers ce témoignage personnel rappeler tout ce que cette région a connu au cours des 15 dernières années.
C'est certainement un outil pour son combat, vous l'avez dit au cours de cette conférence de presse. Alors, est-ce qu'on peut penser que ce livre pourrait aider aussi la population au Congo ?
Je ne sais pas si ça va les aider. Ce qui les aide, c'est surtout l'action personnelle du docteur Mukwege, médicale, sociale, de réconfort. Mais c'est aussi de voir qu'en Europe, les gens qui lisent ce livre peut-être se montreront solidaires. Et donc voilà, de dire que ces femmes ne sont pas seules et qu'on ne les oublie pas et qu'il y a des solidarités en Europe aussi.
Est-ce un livre biographique du docteur Mukwege où on apprend toute une série de choses sur lui, sur son parcours? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la personnalité du docteur?
Mais je crois que c'est un homme profondément bon et qui tout à coup a été plongé dans une tragédie qui est plus grande que lui, comme ça arrive souvent dans l'histoire, et qui a essayé d'y faire face avec tous ses moyens techniques de médecin. Il a appris des techniques pour soigner les femmes victimes de viol qui souffrent de fistules, mais il a aussi trouvé en lui-même les ressources de bonté, d'humanité pour réconforter ces femmes. Lorsqu'on est avec lui dans son hôpital, on l'appelle Papa Mukwege, les femmes ont vers lui un regard plein de reconnaissance, parce qu'il les réconforte aussi sur le plan spirituel, sur le plan humain. Sa fondation Panzi aide les femmes à repartir dans la vie, à essayer de se réinsérer dans la société. Et dans ses prises de position publique, lorsqu'il est invité dans le monde, il essaie d'être le porte-parole de ces femmes, d'expliquer leurs souffrances et de plaider pour qu'une réelle protection leur soit accordée.
Justement, vous avez rencontré le docteur Mukwege à plusieurs reprises. Vous avez visité l'hôpital Panzi. Comment vous, en tant que journaliste, vous avez pu prendre de la distance par rapport à votre récit? Vous êtes une femme, vous êtes en même temps partie prenante, et en même temps, dans le livre, on peut lire la rencontre de deux témoins indignés.
Mais je suis allée souvent au Kivu, et donc j'ai vu Panzi, j'ai vu l'évolution de l'hôpital Panzi, qui a malheureusement grandi à mesure que les problèmes s'amplifiaient, qui accueille de plus en plus de femmes en souffrance. Donc c'est une espèce de travail de longue haleine, et je suis indignée parce que c'est le genre de choses, quand on le voit, une ou deux fois, on se dit, c'est pas possible, quelque chose va se passer et on va arrêter ça. On va l'arrêter. Et puis, chaque fois que je retourne, je me rends compte que non, ça ne s'arrête pas. Et la dernière fois, je retrouve le docteur, c'était au mois d'août. Il me dit, attendez un instant, il ferme les portes de son bureau et il dit, regardez. Et il avait fait des photos du dernier enfant de 4 ans qu'il avait accueilli, une gamine de 4 ans, horriblement blessée, mutilée. Et donc, non seulement ça ne s'arrête pas, ça continue, ça s'amplifie, c'est de plus en plus horrible. Comment voulez-vous rester indifférent à ça? Et donc là, je suis revenue, j'ai repris mon livre, je dis bon, maintenant on termine et on va, il faut crier, mais moi je ne suis pas médecin, la seule chose que je peux faire c'est écrire.
Et ce cri, vous l'adressez à la communauté internationale?
Oui, à tous ceux qui pourraient protéger les femmes du Kivu, aussi au pouvoir congolais, à l'armée congolaise. Je sais que des efforts sont faits, on est en train de rénover l'armée, de dire que chaque soldat congolais soit un protecteur des femmes, parce que ce n'est pas des étrangers qui vont protéger les femmes du Kivu, hein. Ce sont finalement les Congolais eux-mêmes, c'est eux qui doivent agir en premier lieu, et puis aussi la communauté internationale, les Nations Unies qui se gargarisent de discours et de grands principes, mais que diable qu'on envoie des troupes combattantes qui combattent pour protéger les femmes. Qu'est-ce qu'on attend? On le fait dans d'autres régions du monde. Je m'adresse à la Belgique. La Belgique envoie des soldats en Afghanistan, elle va peut-être en envoyer au Mali, et c'est très bien. Mais quel autre pays d'Afrique est le plus proche de nous que le Congo? Quelle autre région est plus liée à nous que le Kivu, qui a fait la richesse de la Belgique? Et pour eux, on ne fait rien. C'est quoi ça?
Alors enfin, pour terminer, malgré l'indignation, il y a toujours cette petite note d'espoir dans vos propos. Le viol des femmes n'est pas l'apanage du peuple congolais.
Voilà, parce que ça aussi, c'est un discours que j'entends souvent et que je ne peux pas accepter. Ah, mais c'est culturel, c'est traditionnel, on a toujours fait ça. Les pays voisins disent ça, ils sont très forts pour propager ce genre de discours. Ils ont toujours fait ça, donc c'est pas de notre faute. Il faut dire haut et fort que ça n'est pas vrai. Le viol n'est pas une constante dans la culture congolaise. C'est quelque chose qui a été inoculé au Congo. C'est un phénomène nouveau, c'est comme une épidémie. Et les Congolais, n'est pas plus disposé au chaos, au désordre et à la violence que le peuple rwandais, ougandais, que n'importe quel autre. Ce n'est pas vrai. Ce sont des circonstances particulières qui ont mis ce peuple dans cette situation, des circonstances que nous devons dénoncer et faire en sorte que ça s'arrête, et la violence diminuera elle aussi.